Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 5 mai 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Visite du président Raïssi à Damas, l'Occident a échoué en Syrie. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, Iran-Syrie, poursuite de coopération pour en finir avec le terrorisme. Hausse de 50% de la production de Yellow Cake en Iran. Et puis une délégation commerciale saoudienne de haut niveau attendue en Iran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la visite officielle du président Raïssi à Damas, l'Iran et la Syrie ont souligné la détermination à élargir les relations bilatérales et éradiquer le terrorisme. M. Raïssi a déclaré que l'Iran continuerait de coopérer avec la Syrie jusqu'à l'éradication complète des derniers groupes terroristes parrainés par l'étranger qui opèrent encore dans certaines régions du pays. Le communiqué publié vendredi 5 mai, suite à la visite de deux jours du président Raïssi à Damas, une première d'un chef d'État iranien en Syrie depuis 2010, fait état de la satisfaction des deux parties quant à la coopération conjointe dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le président de la République islamique d'Iran, Seyyed Ebrahim Raïssi, a considéré sa visite en Syrie comme un tournant dans les relations entre les deux pays et a déclaré « de nouvelles conditions seront établies au profit des peuples des deux pays ». La nation syrienne, qui a su briller dans le domaine de la résistance, saura également résoudre les problèmes dans les domaines commercial et économique, a-t-il dit. S'exprimant lors d'une rencontre conjointe d'activistes économiques syriens et iraniens jeudi après-midi 4 mai, Seyyed Ebrahim Raïssi a poursuivi « La nation et le gouvernement syrien ont enduré de nombreuses épreuves. Ils ont subi de nombreuses atrocités dont les auteurs doivent être tenus responsables devant Dieu, devant le peuple syrien, devant les consciences éveillées, la loi et l'éthique et l'histoire ». Le président a ajouté « Malheureusement, il n'existe aujourd'hui aucune structure indépendante dans le monde pour tenir les arrogants responsables. Mais nous espérons qu'un jour, le terrain pour traduire en justice les criminels soutenus par le système de domination sera favorisé et qu'ils répondent à leurs crimes contre les nations de la région, y compris la Syrie. » Raïssi a poursuivi « Le peuple iranien et les responsables de la République islamique étaient aux côtés du gouvernement et de la nation syrien pendant ces années marquées par tant de difficultés et de défis. Ils seront bien sûr à vos côtés pendant la période de construction, a-t-il promis, avant de regagner son pays. » Le président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique a déclaré lors d'une cérémonie d'ouverture de l'usine de gâteaux jaunes de Sagand. Nos collègues ont produit du gâteau jaune aujourd'hui en utilisant la méthode de la lixiviation. La capacité de production de yellow cake de cette usine augmentera de 50% en termes réels et la répétition de ce procédé dans les autres mines et à l'heure du jour. Selon la base d'information de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, l'usine de production de gâteaux jaunes à Sagand Ardakan a été mise en service en présence de Mohammad Eslami, vice-président et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, des représentants de cette organisation ainsi qu'un groupe de responsables de la province centrale de Yazd. Ce que vous avez vu est le processus d'extraction de la mine et des préparations des minerais. Et dans cette usine de gâteaux jaunes, nous assistons à l'utilisation de la méthode de lixiviation selon une méthode complètement indigène, avec toutes les étapes de conception, d'ingénierie, de construction qui sont purement iraniens, même les équipements, s'est-il félicité. Enfin, une délégation commerciale de haut rang d'Arabie Saoudite se rendra en Iran dans les prochains jours pour visiter une importante exposition économique dans le pays, selon un haut responsable iranien. Mehdi Safari, qui dirige les affaires de diplomatie économique au ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré jeudi que la délégation saoudienne participerait à l'Iran Expo 2023, un événement prévu du 7 au 10 mai. Mehdi Safari a déclaré que la délégation saoudienne sera dirigée par un vice-ministre du gouvernement du royaume. Il a déclaré que le voyage coïnciderait avec les projets de l'Iran et de l'Arabie saoudite de rouvrir leurs ambassades et consulats respectifs jusqu'au 9 mai sur la base d'un accord de détente conclu en Chine début mars. Le responsable a déclaré que l'Iran Expo 2023 pourrait conduire à des contrats d'une valeur d'au moins 1 milliard de dollars entre des entreprises iraniennes et des représentants de 60 pays, sans préciser s'il y aurait un accord entre les entreprises iraniennes et saoudiennes pendant la foire. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Visite du président Raïsi à Damas, l'Occident a échoué en Syrie. Soulignant le soutien indéfectible de l'Iran au gouvernement syrien et l'échec d'une décennie de politique belliqueuse de l'Occident en Syrie, l'ancien ambassadeur britannique à Damas a déclaré que la visite du président iranien à Damas était un événement important, montrant la victoire de la révolution et de la politique de l'Iran dans la région. Soulignant le soutien indéfectible de l'Iran au gouvernement syrien et l'échec d'une décennie de politique belliqueuse de l'Occident en Syrie, l'ancien ambassadeur britannique à Damas a déclaré que la visite du président iranien à Damas était un événement important, montrant la victoire de la politique de l'Iran dans la région. Lors d'une interview accordée vendredi 5 mai au correspondant de l'agence de presse iranienne IRNA à Londres, Peter Ford, l'ancien ambassadeur britannique en Syrie de 2003 à 2006, s'est exprimé en ces termes. La Syrie se présente triomphalement sur la scène internationale. Ce pays a subi des années de guerre que l'Occident a lancées pour changer le système politique tout en imposant des sanctions. Mais maintenant, il émerge à nouveau alors qu'il a préservé son intégralité territoriale et son autorité politique, a-t-il souligné. Je suis sûr que sans le soutien de Téhéran et de Moscou, les puissances occidentales auraient renversé le gouvernement syrien, a-t-il assuré. Quant au changement de position et de tendance de certains pays arabes envers la Syrie, l'ancien diplomate britannique a expliqué « Pendant ma prise de fonction en Syrie, je me suis rendu compte que le peuple de ce pays est patient et ne recherche pas des résultats immédiats comme nous le faisons en Occident. Nous avons déjà qualifié de têtu et d'opiniâtre le peuple de ce pays, mais à mon avis, les Syriens sont plus intelligents que nous. » La Syrie n'a pas changé de position. Ce sont les pays arabes qui ont fini par se rendre compte qu'il était irrationnel de coopérer avec les États-Unis pour renverser le gouvernement syrien, a-t-il fait noter. Étant vaincus que le changement de gouvernement allait à l'encontre de leurs intérêts, les pays arabes ont opté pour le réalisme et décidé de restaurer leurs relations avec la Syrie, souligne l'ancien diplomate en référence à la récente visite du ministre saoudien des Affaires étrangères à Damas. Ford a également évoqué l'importance de la visite du président iranien à Damas, une première depuis 2010 qui témoigne de la victoire de la politique régionale de l'Iran. Pour l'ancien diplomate britannique, la visite du président Raisi à Damas, de même que l'accord irano-saoudien, constitue une étape majeure dans la réduction des tensions dans la région au profit des pays du Moyen-Orient. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de la visite officielle du président Raisi, l'Iran et la Syrie ont souligné leur détermination à élargir les relations bilatérales et éradiquer le terrorisme. Le président Raisi a déclaré que l'Iran continuerait de coopérer avec la Syrie jusqu'à l'éradication complète des derniers groupes terroristes parrainés par l'étranger qui opèrent encore dans certaines régions dans ce pays. Le communiqué publié ce vendredi 5 mai, suite à la visite de 2 jours du président Raisi à Damas, fait état de la satisfaction des 2 parties quant à la coopération conjointe dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le communiqué souligne que l'Iran et la Syrie continueraient à travailler ensemble jusqu'à l'anéantissement total de tous les groupes terroristes en Syrie. Le président Raisi et son homologue syrien se sont également entretenus des moyens de développer et de renforcer davantage les relations cordiales et stratégiques entre Téhéran et Damas et aborder les dernières évolutions régionales et internationales. Les 2 parties ont souligné la nécessité de respecter la souveraineté nationale, l'indépendance et la préservation de l'intégrité territoriale des 2 pays, conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. Le président iranien et son homologue syrien ont également mis l'accent sur l'importance de renforcer les relations bilatérales à travers la poursuite de coopération politique, économique, consulaire et d'autres domaines, ainsi que la poursuite de l'échange de délégations de haut rang entre les 2 parties. En outre, Raisi et Assad se sont dit prêts à prendre des mesures appropriées visant à promouvoir davantage les relations commerciales et économiques bilatérales par le biais des mécanismes existants tels que la Haute Commission conjointe. Ils ont souligné les domaines potentiels de coopération dans la période de reconstruction et de développement de l'après-guerre en Syrie. Les 2 hommes ont vivement condamné la poursuite des raids aériens du régime israélien contre diverses régions syriennes et les ont décrits comme un facteur déstabilisant le Moyen-Orient. Ils ont mis l'accent sur le droit légitime de la Syrie à riposter de manière appropriée à de tels actes d'agression. Ils ont condamné la poursuite de l'occupation israélienne des hauteurs du Golan syrien et la décision du régime de Tel Aviv d'annexer le plateau stratégique en violation flagrante du droit international. Les 2 parties ont vivement dénoncé la décision du gouvernement américain de reconnaître le contrôle israélien du plateau du Golan dont s'est emparé Israël en 1967. Les 2 présidents ont également condamné la présence de forces d'occupation étrangères sur le territoire syrien avant de la qualifier d'illégitime et ont appelé à y mettre fin. Ils ont souligné la nécessité pour le gouvernement de Damas de consolider et d'élargir sa souveraineté sur l'ensemble de la Syrie et ont dénoncé le pillage continu par l'armée américaine du pétrole brut et des ressources naturelles syriennes. Les deux présidents ont exigé une réaction décisive de la communauté internationale pour mettre fin à de telles actions. Les deux parties ont également condamné fermement les sanctions unilatérales et illégitimes imposées par les États-Unis et l'Union européenne contre l'Iran et la Syrie, affirmant que les mesures coercitives sont contraires aux lois internationales et aux principes humanitaires. Ils ont déclaré que les sanctions affectent des personnes innocentes. Elles leur sont préjudiciables, appelant à la fin immédiate de ces mesures inhumaines. Ils ont souligné la nécessité de briser immédiatement le blocus de la Syrie afin de recevoir une aide et une assistance internationale pour la reconstruction des régions touchées par le tremblement de terre. Raisi et Assad ont finalement salué la récente réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite dans un accord parrainé par la Chine, qualifiant le rapprochement d'étape importante vers l'établissement de la stabilité dans tout le Moyen-Orient et un nouvel ordre mondial.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant le 1er mai, un 1er loin d'être festif à Paris et en France, notamment beaucoup de manifestants, beaucoup d'interpellations, beaucoup de violences. C'est ainsi que peut se résumer ce 1er mai dans la capitale française, Paris. C'est le sujet du jour. Je vous propose donc un reportage qui résumera un peu tous les faits de ce 1er mai. Et par la suite, nous ferons donc venir nos deux invités qui sont aujourd'hui M. Philippe Hugon, reporter de guerre, et M. Luc Michel, notre analyste géopolitique. Tout de suite donc, je vous propose le reportage.
La France a connu ce 1er mai une mobilisation historique. Plus qu'une fête du travail traditionnel, c'était surtout une 13e journée de contestation dirigée par les syndicats à la suite des modifications extrêmement impopulaires du système de retraite français promulgué le mois dernier. 2,3 millions de manifestants ont défilé dans les rues selon la CGT, tandis que le ministère de l'Intérieur parle de 782 000 manifestants. Des heurts ont été observés à Paris, Lyon ou encore Nantes. Au moins 291 personnes ont été interpellées. 550 000 personnes étaient présentes dans le cortège parisien, selon les chiffres de la CGT. La préfecture, elle, en dénombre 112 000. Le cabinet indépendant Occurrence compte quant à lui 94 000 manifestants. Il s'agit du deuxième taux de participation le plus élevé depuis le début des manifestations contre la réforme de retraite cette année. Des scènes chaotiques montrent des feux d'artifice et d'autres projectiles lancés sur la police qui a répondu avec des gaz lacrymogènes alors que les manifestants se retiraient et se regroupaient. Pas moins de 12 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés, dont 5 000 à Paris. Nouveauté sur cette journée de mobilisation. Les forces de l'ordre pouvaient utiliser des drones pour encadrer les manifestations. Un immeuble a pris feu, place de la Nation, alors que la capitale se transformait en une bataille rangée entre manifestants et policiers anti-émeutes. Des gaz lacrymogènes ont étouffé l'air, place de la Nation, alors que les affrontements se poursuivaient et que les manifestants ne montraient aucun signe de dispersion plus tard lundi. Vers 19h30, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rapporté 291 interpellations. Ce chiffre va continuer à augmenter, a-t-il ajouté. Au total, 108 gendarmes policiers ont été blessés, selon Gérald Darmanin. Des manifestants ont aussi été blessés, comme à Nantes. Voitures incendiées, vitrines brisées, violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, des scènes de violence ont touché tout le territoire. Depuis des mois, la France est confrontée à des grèves et des manifestations régulières contre sa réforme de retraite et d'autres politiques du gouvernement Macron qui ont fait descendre des millions de personnes dans la rue.
Alors, l'accueil de nos deux invités. Tout d'abord, M. Philippe Hugon, donc notre reporter de guerre. Bonjour, M. Philippe Hugon.
Merci à vous, bonjour à toute l'équipe.
Alors, notre deuxième invité, comme annoncé au tout début de l'émission, M. Luc Michel, notre analyste politique, géopolitique. Bonjour, M. Luc Michel, ravi de vous avoir également avec nous.
Bonjour à votre équipe, à votre défecteur et bien entendu à M. Hugon. C'est toujours un plaisir de vous retrouver.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, Monsieur Philippe Hugon, un 1er mai loin d'être festif cette année. C'est pas la première année non plus où le 1er mai se passe comme ça. Ces dernières années, on va dire que les travailleurs en France ont loin, n'ont pas très envie de fêter, mais ont plus envie de revendiquer. C'est un peu ce qui en résume la journée du 1er mai, en tout cas pour la capitale française qui est Paris, mais pas seulement. Il y a une chose qui nous vient à l'esprit, c'est que je ne pense pas que, et je pense que les téléspectateurs, c'est pareil, on ne pense pas que c'est parce qu'il y a seulement 2 ans de retraite. On a vu la qualité de vie des travailleurs français diminuer avec les années, la situation donc devenir de plus en plus grincheuse, de plus en plus en colère. Donc cette réforme des retraites n'est pas la vraie raison de toutes ces manifestations. Et le fait que les Français ne laissent pas tomber. Ils ont, depuis 20 ans, la situation française se dégrade, les travailleurs, les classes moyennes en particulier, les classes ouvrières également. Et je pense qu'on peut résumer la situation comme le gouvernement se détache complètement de la France française, de la France des Français travailleurs. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que revendique donc le peuple.
Oui, alors... Moi, je dirais la chose suivante, et je pense que c'est primordial. Il faut bien savoir qu'en France, les étudiants font des études de plus en plus longues. Moi, j'ai moi-même un fils qui a 26 ans et qui n'a jamais travaillé. Il faut savoir que moi, je suis à la retraite et j'ai 62 ans, mais j'ai commencé à travailler à 16 ans. Donc, le problème est un petit peu différent et mon fils ne peut pas prétendre, en n'ayant jamais travaillé à 26 ans, pouvoir avoir une retraite à 62 ans. Ce serait une ineptie de mettre des gens à la retraite à 62 ans quand ils n'ont pas encore commencé à travailler à plus de 25 ans. Donc, moi, je crois que le problème, c'est, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, ce n'est pas les 2 ans rajoutés à sa vie professionnelle pour obtenir sa retraite. Je pense que c'est, sur un plan général, le contexte du travail aujourd'hui est vraiment très, très difficile. Ceci n'a plus rien à voir par rapport à mon époque où, quand j'avais 20 ans, il y a 40 ans, eh bien, on allait au travail avec plaisir. Il n'y avait pas vraiment de problème particulier. Je vous parle de ça dans les années 80. Et comment ? Aujourd'hui, bien sûr, la situation s'est tellement dégradée qu'il est très difficile aujourd'hui de cautionner la politique patronale parce qu'elle est, bien sûr, elle a apporté non seulement une politique de bas salaire, mais elle a apporté également une politique de non-reconnaissance des travailleurs dans l'entreprise dans laquelle ils exercent. C'est, à mon avis, le contexte principal, c'est ceci. C'est le contexte du travail aujourd'hui qui est devenu tellement difficile que les gens ne veulent plus faire une prolongation de leur temps de travail. En ce qui concerne le système des retraites, qui est à mon avis condamné comme il l'est aujourd'hui, je pense que ceci devrait s'établir en fonction des branches professionnelles. On sait très bien que les gens qui travaillent comme maçons, par exemple dans le bâtiment, seront complètement cassés physiquement à 60 ans, par rapport à, bien sûr, un employé de bureau qui n'aura pas ces conditions de vie difficiles. Donc je pense que c'est un système qu'il va falloir remettre à plat et renégocier. Et je ne pense pas malgré tout que ce soit le fait de descendre dans les rues et de tout casser qui va changer vraiment le problème. Il faudrait qu'il y ait une véritable mobilisation générale et je pense qu'on n'en est pas encore là.
Merci Monsieur Philippe Hugon. Alors Monsieur Luc Michel, bien que je n'aime pas la rhétorique, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire Monsieur Philippe Hugon? Mais malgré tout, étant donné que vous avez deux visions différentes, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de dire donc Monsieur Philippe Hugon? Et surtout, pensez-vous également qu'il y ait une vraie déconnexion entre le gouvernement et les prises de décision du gouvernement et celles du peuple?
Ce qu'il faut dire, c'est que l'âge de la retraite, ce n'est qu'un symbole, ce n'est pas le noyau du problème. Ce qui est le nœud du problème, c'est que Emmanuel Macron est le président le plus détesté des Français. C'est un président minoritaire. Quand on sait que 60% des Français n'ont pas été votés aux dernières élections, c'est un président qui représente 20% en réalité des Français. C'est donc un président minoritaire qui dresse contre lui 4 Français sur 5. L'arrogance du personnage, on l'appelait le président méprisant, eh bien, fait qu'il reste tout le monde. Mais la différence, c'est que les Français n'ont pas paniqué, ils continuent à se battre. Et ils sont le seul peuple en Europe qui se bat contre la régression sociale. Macron a été mis en place au pouvoir par des réseaux pro-américains avec un programme bien net qui est la liquidation du modèle social européen tel qu'il existe en France, en Allemagne ou en Belgique. À côté de cela, bien entendu, il y a en Europe une tentation à remplacer les politiciens du système par l'extrême droite. Madame Meloni en Italie, elle a fait un cadeau aux Italiens le jour du 1er mai. Elle a voté une loi qui interdit l'aide sociale aux plus démunis. C'est donc un régime antisocial, bien entendu, qui est au pouvoir. Mais en France, c'est une région typique. Lorsqu'on connaît le personnage de Macron, il dresse contre lui tous les Français, comme il a dressé contre lui tous les Africains.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, donc vous parliez donc du patronat en France qui a beaucoup changé, le patronat des années 60-70 que vous avez connu et le patronat d'aujourd'hui vous semble donc bien différent. J'ai envie de rappeler que c'est vrai que la production à l'époque des années 60-70 n'était pas celle demandée par aux travailleurs, c'est-à-dire on leur demandait de travailler, mais on n'attendait pas des chiffres. Est-ce que c'est ce genre de patronat que vous pensez que les Français en sont en colère parce qu'ils ne sont plus protégés? Est-ce que le patronat, c'était un peu le patron, c'était un peu la personne qui avait étudié, les autres n'avaient pas étudié, et ils étaient comme un peu les parrains, en fait, de leurs travailleurs. En tout cas, pour les années 60-70, ça n'a pas tout le temps été comme ça en France, mais cette frange-là d'ouvriers que vous avez connue, elle voyait son patron comme celui qui parrainait même sa famille, puisque parfois les enfants pouvaient avoir des bourses, etc. Donc la connexion, est-ce qu'il y a une vraie disconnexion entre les patrons et les travailleurs? Est-ce que cette connexion peut de nouveau se créer? Et comme l'a dit M. Luc Michel, lui, il a développé une image complètement européenne de la situation, parce que est-ce qu'on peut dire que le patronariat n'a pas changé dans toute l'Union européenne, avec cette même envie de production et de chiffres? Donc est-ce qu'il peut y avoir une reconnexion entre la moyenne classe et la classe ouvrière et les patrons?
Alors ça va être très difficile parce qu'aujourd'hui, la finance a pris le dessus dans tous les domaines. Moi, vous savez, j'ai une entreprise, j'avais 15 personnes, j'ai un employé qui est arrivé à la retraite, il avait travaillé 25 ans chez moi et il m'a dit que j'ai passé 25 ans de bonheur chez vous. Tout simplement parce qu'on avait mis une très bonne ambiance dans l'entreprise. Alors bien sûr, ça ne peut pas se faire dans des très grandes entreprises, mais je pense qu'aujourd'hui, l'argent a tellement pris le dessus sur la société que tout est dirigé par l'argent. D'ailleurs, comme le disait Luc Michel, et il a tout à fait raison, Macron est un homme qui a été mis en place par les financiers, et ben, il gère finalement une sorte de CNPF, hein, et bien sûr au détriment du bien-être de la population entière. Donc c'est un homme qui est totalement aujourd'hui décalé des réalités. Non seulement il est bien sûr détesté, mais il est décalé des réalités. Et si on veut cette reconnexion entre le monde du travail et le patronat, il faudrait bien sûr agir d'une façon différente et redonner de l'importance à des employés qui avaient, il y a encore quelques années en arrière, une reconnaissance de leur patron, de leur dirigeant, et qui touchaient bien sûr de bons salaires, ce qui leur permettait de vivre correctement. On parle des classes moyennes qui ont vu leurs revenus baisser, mais c'est également le cas de tous les employés, les ouvriers. Tout le monde a vu le coût de la vie augmenter et voir les salaires stagner. Donc les gens sont de moins en moins heureux puisqu'ils vivent de plus en plus mal. Et c'est malheureusement une constante qu'on est obligé de constater dans toute l'Europe, hein, et dans le monde occidental d'une manière générale. Donc
il faut s'attendre... Quand vous avez parlé des prix, il faut comprendre que depuis 10 ans, les prix augmentent, mais les salaires, eux, sont figés, comme on dit, sont gelés pratiquement.
C'est tout à fait ça. Les salaires stagnent. Et puis surtout, c'est que les salaires n'augmentent pas. Alors que si certaines petites entreprises ne peuvent pas faire d'efforts à augmenter leurs salariés, il n'en reste pas moins vrai que de grandes entreprises ou de grands groupes qui font des bénéfices records pourraient le faire et ne le font pas. Aujourd'hui, on a à la tête de la France, et comme dans beaucoup de pays d'Europe, des financiers. Et la finance et les sentiments, ça ne va pas ensemble. La finance et la reconnaissance des êtres humains, ça ne va pas ensemble. Alors bien sûr qu'on donne de l'importance au domaine financier, je trouve ça normal, hein, c'est pas rédhibitoire, mais il ne faut pas que ce domaine financier prenne des proportions comme elles sont aujourd'hui, puisque ça nous amène à une situation catastrophique et conflictuelle d'une façon permanente.
Merci, Monsieur Philippe Hugon. Monsieur Luc Michel, vous aviez parlé donc de la situation italienne qui ont célébré donc ce 1er mai, qui est une journée internationale du travail, hein, puisque dans tous les pays du monde, plus ou moins, ce 1er mai est reconnu. Vous aviez indiqué donc que l'Italie avait également célébré d'une mauvaise façon pour les travailleurs ce 1er mai, mais il n'y a pas que finalement cette semaine est un peu remuée un peu partout dans le monde. On a entendu parler de grève aux États-Unis, on entend parler de grève et de réactions syndicales un peu partout dans l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre, étant donné que le calme ne revient pas, parce qu'on parle quand même d'une situation qui dure depuis un certain temps maintenant? Comment vous voyez la réaction de l'Union européenne dans les prochaines semaines, voire mois, sachant que l'inflation risque d'être plus dure en 2024-2025?
C'est un phénomène. Le mécontentement social, c'est un phénomène qui concerne toute l'Europe. En Belgique, nous avons une grande grève dans les supermarchés de l'Est, où on rentre sur le droit de grève, le grève syndical. Il y a des juges qui ont voté au syndicalisme l'interdiction de manifester. Monsieur Hugo a bien souligné une chose, c'est qu'aujourd'hui, les industriels ont été remplacés par les financiers. L'exemple, c'est Macron. Macron, c'est un ancien banquier de la Banque Rothschild. On a dit que c'était le Mozart de la finance, mais aujourd'hui, la musique de Mozart, ce sont les concerts de casseroles des Français mécontents. Voilà ce qu'il faut retenir. Les financiers, évidemment, ils veulent du profit à tout prix. Le profit, il est fait sur le dos des travailleurs et des immigrés. C'est cela qu'il faut retenir, bien entendu. Et l'extrême droite dans tout cela, elle est l'armée de réserve du capital. C'est-à-dire que, comme on le voit en Italie ou en France, c'est la carte de réserve de gens qui ont peur de perdre le pouvoir. Il faut souligner quelque chose, c'est que la finance a mis une classe politique qui lui ressemble au pouvoir. Macron est un ancien banquier de la Banque Rothschild. Mais des gens comme Mélenchon à l'extrême gauche ou Marine Le Pen à l'extrême droite, ce sont des créatures politiques qui n'ont jamais travaillé, qui ont des revenus considérables de plus de 10 000 euros par mois, qui n'ont pas relevé, qui font des escroqueries en banque, des escroqueries au Parlement européen sur les salaires, etc. C'est donc une classe politique qui est déconnectée des réalités des citoyens.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, alors pour revenir un peu à la situation économique, puisque là on a dévié de la France à l'Union européenne, on se rappelle de la réunion de Davos qui s'est faite il y a quelques mois. Alors cette réunion, la représentante de l'Union européenne, la présidente a indiqué qu'il fallait de la destruction pour reconstruire. On sait que déjà c'est une certitude puisque tous les économistes du monde entier l'ont indiqué. 2024 à 2025 vont être des années extrêmement difficiles d'un point de vue économique. Il y a eu cette déclaration de Davos également en parlant de destruction. Donc j'ai envie de poser la même question, mais avec ces informations-là concernant le futur des travailleurs européens, de l'Union européenne, sachant que les gens sont déjà dans la rue et que 2024 et 2025 ne sont pas encore arrivés. On va s'attendre à quoi? Et est-ce que ce ne serait pas un peu manipulé donc de voir les gens, puisque Davos veut la destruction, les gens sont dans les rues et détruits, est-ce que ça rentre pas un peu dans ce plan-là?
Oh ben, c'est fort possible. Moi, je pense surtout qu'on va avoir une crise financière qui va être énorme dans les années qui viennent. Et il faudra malheureusement cet effondrement général pour pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus saines. Parce qu'aujourd'hui, comme le disait Luc Michel, et il avait tout à fait raison, à la tête des industries, on n'a plus des patrons, on a des financiers. Donc tant que la finance passe par-dessus l'industrie, le commerce, eh bien, on est condamné à avoir beaucoup, beaucoup de soucis. Vous savez, dans des entreprises, aujourd'hui, l'ambiance est à une très grande morosité parce que les gens ne vivent mal et ne sont plus très heureux dans le domaine du travail. C'est le contexte général qui est mauvais. Et à côté de ça, comme je vous le disais, hein, quand vous voyez ces grands groupes qui font des bénéfices records, et malheureusement, ces gens-là, ils n'en ont jamais assez. Donc on s'aborde la classe ouvrière, on s'aborde la classe moyenne, et au profit d'un petit groupe de gens. Mais moi, je suis très, très inquiet, d'autant plus que, vous savez, on a ce problème de surpopulation dans le monde. Hein. Ce que je vais dire est un exemple qui est vraiment révélateur. Pour nourrir une personne, une seule personne, il faut l'équivalent d'une surface cultivée de 4 terrains de football. Et on est bientôt 8 milliards sur Terre. Donc, dans les 15 ans qui viennent, on va subir des transformations que les gens n'imaginent même pas que ce soit possible d'avoir de telles transformations. Donc on va connaître une époque extrêmement difficile, et pas seulement en France ou en Europe, mais un peu partout dans le monde. Il faudra passer par un effondrement général pour repartir sur de nouvelles bases.
Merci Monsieur Philippe Hugon. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous partagez donc ce point de vue, notamment concernant l'effondrement? Et par la suite, comment on peut considérer la situation européenne, notamment parce que bien que tous les pays du monde subissent l'inflation, à l'heure actuelle, ceux qui manifestent le plus, qui sont le plus dans les rues, ce sont les Européens, et notamment la France. Est-ce que ça risque de s'empirer dans les mois à venir, sachant que les inflations 2024-2025 ne sont pas encore là?
Mais c'est normal, puisque c'est en Europe que la régression sociale est la plus importante. Mais nous avons un phénomène qui ne concerne pas la décroissance, qui est la crise financière mondiale. Elle est accélérée par la guerre en Ukraine et les Américains se sont tirés une balle dans le pied puisqu'ils ont mis en place les conditions de la dédollarisation du monde. La dédollarisation du monde, elle va se traduire par un effondrement du dollar, mais aussi de l'euro. L'euro espère succéder au dollar, mais c'est une illusion puisque la crise économique est beaucoup plus importante ici. Le premier jour de l'opération spéciale en Ukraine, Vladimir Poutine a fixé comme objectif, non pas des objectifs de politique commerciale, mais la fin du nouvel ordre mondial de 1991. Il est aujourd'hui en pleine réussite. 85% du monde n'est plus d'accord avec la croissance à l'Occident, qu'on appelait la globalisation. Le bloc américain d'Occident, c'est 15% de la population. Et à l'intérieur, il y a une fracture entre le monde américain et le monde européen, qui sont des alliés géopolitiques, mais qui sont des adversaires mortels économiques. La guerre économique du dollar contre l'euro et des USA contre l'Union européenne, qui a démarré sur Reagan dans les années 1980, elle atteint aujourd'hui son paroxysme.
Merci, Monsieur Luc Michel. Donc, je répète, notre analyste politique, Monsieur Philippe Hugon, donc reporter de guerre. Je vous remercie à tous les deux pour votre participation à cette émission, qui, je résume, repassait en revue donc ces manifestations ayant eu lieu le 1er mai, qui ne sont pas les premières manifestations de l'année et ne semblent pas être les dernières. Je vous dis donc à bientôt pour un autre sujet du débat, pour un autre jour ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur la visite du président iranien Ibrahim Raisi à Damas. Le président iranien Sayed Ibrahim Raisi s'est entretenu avec son homologue syrien Bachar Assad après son arrivée à Damas pour une visite historique visant à renforcer les relations bilatérales alors que la Syrie a lancé la saison de la reconstruction après plus d'une décennie de guerre avec des groupes terroristes soutenus par l'étranger. Les rues de la capitale syrienne Damas ont été décorées des drapeaux de la République islamique d'Iran et des drapeaux syriens avant la première visite du président Raisi à Damas. Le président iranien est arrivé le mercredi 3 mai à Damas, capitale syrienne, pour la première visite du genre en 13 ans. Il a été reçu par le chef de la mission honoraire, le ministre syrien de l'économie Samer Khalil, et le ministre d'État aux affaires de la présidence Azam Mansour. La visite du président iranien à Damas s'inscrit dans le cadre de la conclusion de plusieurs accords économiques et politiques entre Téhéran et Damas. Le président iranien a déclaré que ce voyage est effectué à l'invitation du président syrien et conformément aux relations stratégiques entre l'Iran et la Syrie. Aujourd'hui, il est devenu clair pour tout le monde que les positions de la République islamique d'Iran sont fondées sur la rationalité, la perspicacité, la justesse et qu'elles sont proches de celles de la résistance, a déclaré le président iranien avant de quitter Téhéran pour Damas. Il a également déclaré que l'Iran et la Syrie avaient la volonté d'étendre leurs relations, ce qui profitera aux deux nations et à la région. Le président iranien a en outre appelé au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Les ennemis ont fait de leur mieux pour nuire aux liens de Damas avec les États de la région. Les États-Unis ont créé des groupes terroristes dans la région, mais des groupes de résistance ainsi que l'Iran, l'Irak, la Syrie et d'autres pays de la région se sont dressés contre eux, a-t-il souligné. Dans la région, il est clair pour tout le monde que la République islamique d'Iran est considérée comme un pilier solide auquel tout le monde peut faire confiance et que les positions de la République islamique d'Iran en tant qu'acteur principal et influent dans les développements de la région sont prises en compte, a-t-il déclaré. Rappelons que dans un tweet mardi soir, un jour avant de se rendre à Damas dans le cadre d'une délégation accompagnant le président Raisi lors de son voyage de deux jours en Syrie, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a écrit « Je partirai bientôt pour la Syrie avec le docteur Raisi. Outre ses dimensions politiques, sécuritaires et économiques, la visite traduit la victoire de la volonté politique et de la résistance et le succès de la diplomatie du gouvernement iranien dans l'achèvement du processus de convergence régionale. » Le haut diplomate iranien a également publié une photo du général Qassem Soleimani, la figure la plus connue de la lutte contre le terrorisme en Irak et en Syrie, lors d'une rencontre avec le président syrien Bachar Assad, rendant hommage au général assassiné par les États-Unis et à tous les martyrs qui ont offert la sécurité à l'Iran et à la région. Lors de ses entretiens avec son homologue syrien Bachar Assad, le président iranien Ibrahim Raisi a déclaré que la Syrie avait réussi à surmonter les difficultés et à sortir victorieuse de son combat malgré toutes les menaces et sanctions contre le peuple syrien. Le gouvernement et la nation syrienne ont surmonté les difficultés et des problèmes majeurs et aujourd'hui, nous pouvons dire que vous avez pu gagner la guerre malgré les menaces et les sanctions qui vous ont été imposées, a déclaré le président Raisi lors d'une réunion avec son homologue syrien à Damas mercredi 3 mai. La Syrie est la cible de sanctions américaines depuis 1979. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont imposé d'autres sanctions à Damas après 2011, lorsque le pays s'est retrouvé sous l'emprise d'un terrorisme soutenu par l'étranger. Le président Raisi a également salué les relations Iran-Syrie comme riches, fructueuses et pleines d'expériences, ajoutant que les liens sont restés stables même dans les périodes difficiles au milieu de graves turbulences politiques et sécuritaires au Moyen-Orient. Il a ajouté que les événements régionaux et internationaux n'avaient pas affecté les relations fraternelles entre Téhéran et Damas. Les relations Iran-Syrie sont liées au sang de nos martyrs bien aimés, en particulier le général Qassem Soleimani, et c'est la clé de la stabilité et de la force des relations entre nos deux nations, a noté le président Ibrahim Raisi. Le président iranien a également ajouté qu'aujourd'hui, la légitimité de la position de l'Iran et de la Syrie a été pleinement prouvée. Ceux qui avaient des doutes sur la position politique de l'Iran sont convaincus que c'était la position juste et équitable. Le président Raisi a également souligné que la République islamique d'Iran se tiendrait aux côtés de la nation syrienne pendant la période de reconstruction et de développement d'après-guerre, comme cela a été le cas lors du combat contre le terrorisme. Le président syrien a salué pour sa part le soutien de l'Iran à la Syrie tout au long du conflit et a déclaré que la nation syrienne n'oublierait pas l'aide de l'Iran dans ces moments difficiles. Les relations syro-iraniennes sont riches et pleines d'expériences car ces relations ont été stables même pendant les périodes difficiles où il y a eu de fortes tempêtes politiques au Moyen-Orient, a-t-il déclaré. Le président Assad a appelé l'Iran à jouer un rôle plus important dans l'établissement d'une paix durable dans son pays et la reconstruction des régions gravement endommagées par la guerre en Syrie. Les deux présidents ont également souligné l'importance du plan de coopération à long terme entre l'Iran et la Syrie pour faire avancer les intérêts des deux nations et des autres pays de la région. Les présidents de la République islamique d'Iran et de la République arabe de Syrie ont signé un accord de coopération stratégique globale à long terme entre les deux pays. Les deux présidents ont tenu une réunion plus tôt dans la journée soulignant l'importance du plan de coopération à long terme entre l'Iran et la Syrie pour faire avancer les intérêts des deux nations et des autres pays de la région. En présence des présidents iraniens et syriens, les hauts responsables des deux pays ont signé 14 documents de coopération dans divers domaines, notamment le commerce, le pétrole, l'énergie, l'ingénierie, le logement, le transport ferroviaire et aérien, les zones de libre-échange communes, les télécommunications et la technologie, ainsi que la facilitation du voyage des pèlerins vers les lieux saints dans des deux pays. Lors de ses entretiens à Damas, le président iranien a également rencontré les leaders de la résistance palestinienne. Lors de cette rencontre, le président Ibrahim Raisi a déclaré « Aujourd'hui, l'initiative est entre les mains des combattants palestiniens sur le terrain et non à la table de négociation. Nous estimons très proche l'effondrement du régime sioniste », a déclaré le président iranien. À l'issue de sa visite officielle de deux jours en Syrie, le président iranien a déclaré lors des réunions séparées avec un groupe de dirigeants et commandants de la résistance palestinienne « La cause de la Palestine et la liberté de Quds sont les questions les plus importantes du monde musulman ». Le président Raisi a souligné que la République islamique d'Iran poursuit toujours le dossier palestinien comme une priorité dans sa politique étrangère et nous pensons que toutes les équations du monde musulman sont définies dans le cadre de cette question. Au terme de son discours, le président iranien a remercié la nation et le gouvernement syrien, les leaders de l'axe de la résistance et le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie, le Hezbollah libanais et son leader Sayed Hassan Nasrallah pour tenir tête devant le régime sioniste et renforcer l'espoir dans les cœurs des musulmans. Le discours du président iranien a fait suite à la prise de parole par le secrétaire général du djihad islamique Ziad Nahallah, ainsi que des responsables du mouvement Hamas sur la cause palestinienne et les activités de la résistance.